En fait, il y a deux cycles qui, en fait, convergent. Je peux parler comme ça. Exactement. Donc, ils ont un point commun. Il y a un cycle des fêtes de pèlerinage, comme on dit. Les trois fêtes où il y a une mitzvah derrière la Régel, Pessah, Shavuot, Sukkot. Ça, c'est un cycle. Et il y a un deuxième cycle qui est le cycle des Yamim Tovim du mois de Tishri, du septième mois, qui est Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Donc, le point commun, c'est évidemment Sukkot. Dans les trois régalim, les trois fêtes de pèlerinage, elles ont toutes un lien avec l'agriculture, si vous voulez, avec la nature. Et il y a une Mishnah dans Masechet. Il y a une Mishnah dans Masechet, dans Rosh Hashanah, qui dit que on est jugé à trois reprises en dehors de Rosh Hashanah. On est jugé à Pessah sur les céréales. On est jugé à Shavuot sur les fruits et les arbres. Et on est jugé à Sukkot sur l'eau. Sukkot a beaucoup à voir avec l'eau. On verra. L'eau, c'est absolument vital. Donc, on a Sukkot. Il y a le fait qu'on va faire des libations d'eau. Il y a dans la mitzvah de Arba Aminim, il y a des plantes qui sont des plantes qui sont en rapport avec l'eau. Et là, ça veut dire que l'allocation globale annuelle d'eau est décidée, on est jugé, elle est décidée à Sukkot. Ensuite, bien entendu, cette allocation globale d'eau, elle va être distribuée en fonction du mérite des Bnei Israël. Alors, cette allocation, ça peut être effectivement Gishmé Bracha, la pluie qui amène la Bracha, chaque goutte d'eau tombe exactement au bon endroit, au bon moment. Et à l'autre extrême, on peut avoir des tsunamis, on peut avoir des inondations, on peut avoir toutes sortes de choses absolument négatives. Ça va dépendre de la conduite des gens. Avec la même allocation annuelle d'eau, on peut faire le bonheur du monde et on peut faire le malheur du monde. Il y a à Sukkot, parce que contrairement à ce qu'on fait toute l'année, quand vous apportez par exemple un corban, un agneau, vous apportez toujours en même temps une offrande végétale, c'est-à-dire en fait une crêpe, quelque chose comme ça, et il y a du minéral puisqu'il y a du sel, un korban chav, toujours du sel, et puis il y a du liquide, ce sont des libations de vin, c'est-à-dire on verse du vin sur le misbéach. Ça, c'est tous les korbanot, sauf quelques exceptions, le korban qu'on amène pour la sota, ou quelques exceptions où il n'y a pas tout. Mais en général, dans un corban normal, il y a tout, quoi. Il y a tout l'éventail, animal, végétal, minéral. Et puis, il y a celui qui apporte le corban, c'est la dimension de la kavana de celui qui apporte le corban, ça soit une kavana ou enfin, la conscience de celui qui apporte un corban et qui sait qu'en réalité, ce qui arrive au corban devrait lui arriver à lui, et ça ne lui arrive pas à lui parce que Hachem a interdit les sacrifices humains. Alors, étant donné que il y a quelque chose d'absolument singulier, quelque chose qui n'existe qu'à Soukhot, alors c'est cette eau qu'on va verser sur le Mizbéach, ça, les libations d'eau, c'est pas? Cette eau, elle vient d'où? Elle vient du robinet. On va la puiser dans un, il y a un petit cours d'eau, tout près du Beth-Amikdash, et on va aller puiser cette eau-là. Et quand on va puiser cette eau, on fait ça en grande pompe. Et il y a, a priori, lors de cette opération de puiser, on va en faire une fête. Et cette fête-là, elle va durer plusieurs jours. Elle va s'appeler Simchat Bet HaShoeva. Shoeva, Shoev, ça veut dire puiser. D'accord? C'est la Simcha qui est en rapport avec l'opération de puiser cette eau qui va nous servir pour les libations. Et la fête en question, elle commençait Motsei Yom Tov Arishon Shel Chag. C'est-à-dire, Sukkot, c'est 7 jours. Quand il y a un premier jour, c'est Yom Tov. Un dernier jour, c'est Yom Tov. Après, il y a encore Shmini Atzeret. Mais bon, le premier jour, Yom Tov. Le lendemain, enfin, le soir, à la fin de ce jour de Yom Tov, on va aller puiser l'eau pour les libations d'eau. Et là, la fête commence. C'est une fête gigantesque. C'est une fête avec tout, avec des chants, des danses, des jongleurs, des équilibristes, des gymnastes, enfin, tout. Ça éclate. Et à cette occasion-là, on fait quelque chose qu'on fait jamais. C'est-à-dire qu'on va faire une modification du Beth Amikdash. On va construire quelque chose qui va modifier en quelque sorte le Beth Amikdash. C'est tout à fait provisoire, mais on va faire, si vous voulez, comme une espèce de galerie pour les femmes à l'intérieur, pour qu'elles puissent voir sans être vues par les hommes, quoi, comme toujours. On dit qu'on a tout essayé. On a essayé les hommes en haut, les femmes en bas, les hommes de côté, etc. Finalement, on met les femmes en haut et les hommes en bas. Et alors, pour pouvoir mettre les femmes en haut, il faut une estrade. Donc, on construit pour cette occasion-là, on construit une estrade, on construit une galerie plutôt. Alors, dans la fête en question, je vous ai dit qu'entre autres, il y a des danses et des chants. Et alors, la Gemara, elle rapporte que qui est-ce qui danse? Alors, c'est les vieux qui dansent, ce n'est pas les jeunes. La danse, à cette époque, et je crois, ça a duré tout le temps, c'est tout nouveau que c'est, disons, je veux dire, c'est dans, il y a très longtemps, dans ma jeunesse. On dansait toujours sous forme de ronde. Il n'y avait que des rondes. Les chassidim, ils dansent que sous forme de ronde. Cette histoire que les gens dansent tout seuls, il y avait toujours, on raconte que David Amener, il a dansé le Aharon HaKodesh avec des figures, etc. Mais que la collectivité danse avec chacun, danse de son côté, ça c'est tout nouveau. Avant, c'était toujours une ronde. Et donc, il y avait une ronde dans laquelle participaient les anciens, les vieux, les anciens. Et pendant quand on dansait, en même temps, on chantait. Et la singularité de ce qu'on chantait ce jour-là, c'est que les uns, il y avait deux groupes de gens parmi les vieux, ils chantaient pas tous la même chose. qui chantaient, tout le monde chantait dans la ronde. Et il y avait ceux qui chantaient Heureuse, notre jeunesse qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. Il y avait un autre groupe de gens qui disaient Heureuse notre vieillesse qui a été mechaper sur notre jeunesse. Donc, il y avait ceux qu'on appelle, ils sont appelés chassidim là-bas dans la Gemara. Et rachidi, chassid, ça veut dire les gens qui étaient toujours respectueux de la Torah. Et les autres sont des Baalei Tshuva qui, dans leur jeunesse, n'étaient peut-être pas. Bon, c'était pas, on ne veut pas dire qu'ils étaient tous des voyous, mais ils n'étaient pas. Ils pensent que, voilà, ils avaient besoin d'une capara, et la capara, ils l'ont eue dans leur vieillesse. Donc, ce qui est intéressant, ils chantent ensemble et ils dansent ensemble. Il n'y a pas une ronde des Baalei Tshuva, une ronde des Tzadikim, des Hasidim, Meikara, comme Bors, c'est pas comme ça. Tout le monde dansait et chantait ensemble, sauf qu'il y avait deux Nusraot. Et cette idée de deux Nusraot, de deux versions, de deux textes, elle est spécifique à cette situation de Soukhot. Et on va essayer de comprendre pourquoi, effectivement, il y avait ces deux Nusraot. Ces deux versions. Alors en fait, Soukhot, c'est juste après Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le 10, Tichri, et Sukkot, c'est le 15. Le premier jour de Sukkot dans la Torah, il est appelé Yom Rishon. Et la Gemara, elle demande, Hazal demande, pourquoi il l'appelait Rishon? Évidemment, c'est le commencement, mais pourquoi on l'appelait Rishon? On dit parce qu'il est Rishon Cheshbon Avot. C'est le premier jour dans le compte des fautes. C'est un peu surprenant parce que Yom Kippour, les comptes ont été remis à zéro. Hachem a pardonné, d'accord, on a une kapara, donc à la fin de Yom Kippour, le compte des fautes est à zéro. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lendemain du Yom Kippour, le compte des fautes devrait commencer. Mais il commence pas. Il commence que le premier jour de Soukhot. Alors on demande, mais alors qu'est-ce qu'il en est des jours entre Kippour et Soukhot? Il dit, ah non, ça c'est entre Yom Kippour et Soukhot, on n'a pas le temps de faire des fautes. On est très occupé, il faut construire la soukha, il faut aller acheter les arba minim, il faut choisir les arba minim, etc. On n'a pas le temps de faire des fautes. Donc, il y a quelques jours, on n'a pas le temps de faire des fautes. Donc, on commence à compter les fautes seulement le premier jour de Soukhot. Le fait que on chante un Simchat Beit HaShoeva, quelque chose qui a à voir avec d'éventuelles fautes, avec sur lesquels il y a eu Kapara. D'accord? Pourquoi ils en parlent à Soukhot? Soukhot, c'est pas Yom Kippour, Soukhot. Pourquoi ils disent, heureuse notre vieillesse qui a été mechaper? C'est la chanson de Kapara, la chanson de Kippour. D'accord? Qui est mechaper sur notre jeunesse. Pourquoi on parle? Alors, en vérité, faut qu'on fasse une petite introduction. Pardon? Pardon. Monsieur le Condé. Yom HaKippourim, Yom Kippour, c'est le grand pardon. On peut dire, Hachem, il a pardonné, c'est bon. Kapara, c'est l'effacement de la faute. Donc maintenant, voilà, le problème du mal. On en parle, où est-ce qu'on en parle au début? Le premier mal dont on parle, c'est avec Adam Arichon. À quel mal est-ce que quel est le mal à l'époque d'Adam Arichon? Le mal, c'est le serpent. D'accord? C'est le Yetzer Hara, le penchant à faire le mal, c'est le serpent. Mais comme vous voyez, le serpent, il est à l'extérieur de l'homme. Donc le Yetzer Hara, au départ, il est extérieur. Il n'y a pas de Yetzer Hara intérieur. Mais quand Adam va fauter, il va intérioriser le Yetzer Hara intérieur. Donc, aujourd'hui, on a deux expressions du Yetzer Hara. Un Yetzer Hara extérieur et un Yetzer Hara intérieur. C'est-à-dire, il y a un Yetzer Hara qui nous propose de faire des choses. Et là, bon, alors, en principe, en théorie, on est libre, donc on va choisir. On est dans le monde du choix. On va choisir de céder au Yetzer Hara ou de ne pas lui céder. On va voter, on va faire ce qu'il nous suggère de faire. Ou on va dire non, on ne fait pas. Mais il y a aussi du mal qui vient de nous-mêmes, qui est en nous-mêmes, de sans sollicitation extérieure. Il nous passe par la tête. Tiens, je pourrais, je sais pas, voler, je pourrais tuer, je pourrais violer. Je pourrais... Bon, je dis les grandes choses. Je ne parle pas de vous, parle pas de nous. Mais bon, il existe des gens qui ont ce genre de problème. Donc, il y a deux sortes de mal. Et en fait, le problème du mal, il se pose à la fois pour les individus et à la fois pour la collectivité, pour le clan Israël. Alors, on dit, je crois, au nom de Rabbi Israël Salanter, que comment est-ce qu'on peut faire pour être zoché, zoché bedin, on va être jugé. Comment on peut faire? La kapara, Yom Kippour, c'est quoi Yom Kippour? C'est le jour où Hachem a pardonné la faute du veau d'or. Bon, puisque Hachem a donné au Bnei Israël, quand Moshe Rabbeinu a négocié avec Hachem, on a déjà vu ça, oui, enfin, Moshe Rabbeinu a négocié avec Hachem, il a négocié le pardon du veau d'or que Hachem, vous vous souvenez, quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or, Hachem a dit, condamné à mort. Ils sont morts, je détruis ce clan. Et ensuite, Moshe Rabbeinu a négocié la survie du clan. Donc, à la limite, Yom Kippour, sa source, c'est le pardon du clan. Comment l'individu obtient son pardon individuel? Alors, la démarche, dit Rabbi Israël Salanter, c'est de se rendre utile pour le clan. Si tu joues un rôle pour le clan, alors tu vas pouvoir bénéficier de la notion de pardon qui va s'occuper à le pardon va s'appliquer à toi dans la mesure où le clan a besoin de toi. Par exemple, quand on prie pour quelqu'un, Alors, dit Hachem, nous prions pour la vie de telle et telle personne parce que nous, Klal Israël, nous avons besoin de lui. On a besoin de cette personne parce que c'est lui qui est le responsable de la caisse de bienfaisance. C'est lui qui, je sais pas, c'est lui qui fait ce travail ou un autre travail. Normalement, quand quelqu'un réfléchit à quoi faire, il devrait aussi tenir compte du rôle qu'il peut jouer par rapport au clan. Fais encore une parenthèse, Une phrase dans Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, c'est donc un ouvrage fondamental qui était écrit par un grand kabbaliste italien du début du 18e, un de ceux qui ont produit des choses assez extraordinaires et qui n'ont vécu que 39 ans, quoi, comme d'autres, comme l'Arizal, comme le Renaud, etc. Des gens demandent ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient pu vivre deux fois aussi longtemps, mais quoi. Tu vois ce qu'ils ont produit en si peu de temps. Donc lui, il était un grand kabbaliste. Il a eu beaucoup de problèmes parce que comme il vivait après Shabtai Tzvi, après le faux Messie Shabtai Tzvi, tout le monde était très très soucieux. C'est-à-dire on est devenu très méfiant parce que les gens qui restaient encore adepte des idées de Chatsvi, même en cachette, même quand après que Chatsvi se sera converti à l'islam, etc. Il y a quand même des gens. Après, il y a eu les franquistes, Franck qui lui s'est converti au christianisme, aussi dans la même mouvance. Alors, et lui, le Ramchal, était quelqu'un qui avait des visions. Il se mettait comme ça et il avait des visions et Hachem lui. Bon, il disait qu'on lui dévoile des choses, et il a écrit, par exemple, un sefer, une espèce de deuxième Zohar. Mais on l'a pas, ce deuxième Zohar, parce qu'il était brûlé. Quand les gens le soupçonnaient, on a beaucoup brûlé les œuvres. Mais bon, malgré tout, il nous en reste quelques-unes de ces œuvres. En particulier, le fameux Mesilat Yesharim, qui est un sefer très important, qui est construit sur le modèle d'une braïta. Il y a une braïta qui dit que la Torah, elle mène à la zéhirout, à la zrizout, etc. Et de fil en aiguille, ça va jusqu'à Ruach HaKodesh. Alors, c'est un sefer qui est construit en disant, si tu veux acquérir, par exemple, une mida, alors, je t'explique comment tu peux l'acquérir, et ensuite, je t'enseigne comment tu peux ne pas la perdre. Tu veux, c'est, tu montes d'un écran, et après, il y a un palier, l'acquisition. Sinon, si tu fais tout de suite, enfin, tu vas te perdre celui-là. Donc, ça marche comme ça. Et alors, avant de commencer du tout à travailler sur le premier niveau, il dit que l'homme doit prendre conscience, il doit savoir Machovato Beolamo. Chacun doit savoir quelle est mon obligation dans mon monde, c'est-à-dire quel rôle est-ce que je dois jouer dans le monde. C'est un problème. Et en plus, il dit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, justement, avec pour chacun un rôle à jouer dans le monde. C'est fondamental de savoir quel rôle on doit jouer dans mon monde, c'est-à-dire quelqu'un qui J'avais demandé à quelqu'un qui avait une très très grande envie de faire ça à l'IA, de monter en Israël. Il avait consulté Rav Hamoud, pour le Libraha. Il avait un rôle ici, il jouait un certain rôle. Et vous le pas. Et après, on a dit, mais tant qu'il y a des gens à Paris qui ont besoin de toi comme boulanger, tu dois rester à Paris. Parce que tu joues un rôle très important, on a besoin, disons, de boulanger, à le boucher, ou pas. Et toi, tu joues ce rôle-là. L'important, c'est, voilà, tu joues le rôle que tu dois jouer par rapport au tzibbour. Donc, il y a cette idée, effectivement, de toujours se demander quel est mon rôle, et en particulier, quel est mon rôle par rapport à la collectivité. Et dans la mesure où je joue un rôle important pour la communauté, alors je peux bénéficier de son bénéfice, de ce dont bénéficie la collectivité. Et si Yom Kippour, c'est quelque chose qui, dans l'idée, se joue au niveau du clan, ça dépend quel rôle je vais jouer dans le clan. Alors, c'est pas, il n'y a pas que celui qui est rabbin ou président de communauté, etc. Chacun dans son coin, chacun qui fait quelque chose d'important pour le tzibou, il doit réfléchir à deux fois. S'il veut changer, aller dans une autre ville ou même dans un autre quartier où il ne pourra plus jouer le rôle qu'il jouait là, à tel endroit, est-ce que c'est bien qu'il se déplace? Il faut penser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire la chose? Ou est-ce que je pourrais continuer de la faire depuis là où je suis, etc. Donc il y a ce problème de travailler. Et donc, en particulier, donc, chacun doit essayer de lutter contre le mal. Et lutter contre le mal, c'est lutter de deux manières. Lutter contre le mal extérieur et lutter contre le mal intérieur. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que d'une certaine manière, le problème du Yetzer Hara extérieur, on peut le négliger dans la mesure où on peut dire, je m'en occupe pas. Je m'en occupe pas. Parce que c'est un peu comme un chien qui aboie. Si on ne s'en occupe pas, il arrête d'aboyer en général. Je ne parle pas d'un chien fou, mais bon, il ne s'occupe pas de toi. Tu ne t'occupes pas de lui, il ne s'occupe pas de toi. S'occupe de lui, il va s'occuper de toi. Et donc, ouais, non, c'est toujours le même, ouais. On peut envisager que le problème du Yetzer Hara extérieur, on peut essayer de pas s'en occuper. Par contre, le Yetzer Hara intérieur, on est obligé de travailler. C'est obligé de tenir compte de ce que tu es, des midot, etc., de tes midot à toi. Travailler sur toi pour améliorer, pour lutter contre le Yetzer Hara intérieur. Alors ça, hein, je n'ai pas vu que j'étais entré. Mais... J'attends juste que revienne Hervé, puisqu'il est allé ouvrir la porte. À extérieur, on peut effectivement ne pas s'en occuper. Mais bien ça, à l'intérieur, on est obligé de s'en occuper, obligé de travailler sur ces midot pour les améliorer, pour lutter contre les mauvaises midot et favoriser les bonnes midot. À l'échelle du clan, on a aussi un même problème, en quelque sorte. Il y a aussi le problème d'une Sahara extérieure et aussi intérieure, si on peut parler comme ça. Mais c'est surtout dans la lutte qu'il y a deux grandes voies, si vous voulez, dans la lutte du Klal, la collectivité, contre le Yetzirah. Il y a aussi cette histoire de. En fait, quand on travaille sur sur le Sahara intérieur, comment est-ce que ça se traduit? C'est le travail de Yom Kippour. C'est le travail de prendre conscience des fautes qu'on a faites, les regretter, et prendre des mesures pour ne plus tomber dans ces ornières-là. C'est le travail d'un petit peu. Mais il y a un autre travail, un travail qui se fait différemment et qui se fait, on va voir, qui se fait avec la joie. Alors, maintenant, on va revenir sur quelques petites choses sur la joie. Dans la Torah, au sujet des fêtes de pèlerinage, des Mel Regalim, le pasouk dit, tu te réjouiras dans et avec ta fête. C'est-à-dire, on a une obligation de se réjouir avec la fête, l'obligation de se réjouir à Pessah, de se réjouir à Shavuot et de se réjouir à Sukkot. C'est vrai pour les trois, pour tous les régalim. Et il y a un passouk supplémentaire. D'un coup, la Torah, elle recommence. Elle reparle du fameux septième mois, avec le premier jour, le dixième jour, etc. Elle parle de Sukkot. Et quand elle parle de Sukkot, elle dit « Usmartem lifnei Hashem Elokechem, Shivat Yamin. » Vous vous réjouirez devant Hashem, votre Dieu, pendant 7 jours. Et on dit que ça s'apporte sur la fête de Sukkot. C'est pour ça que à Sukkot, on dit de Sukkot, comme on dit sur Pessah, c'est Zman Chérouteinu, le temps de notre libération. On dit à Shavuot, c'est Zman Matan Toratenu, du don de la Torah. À Sukkot, on dit Zman Simchatenu. C'est le temps de notre joie. Mais pourquoi notre joie? Puisque on aurait pu dire sur Pessah et Shavuot aussi. C'est marqué, mais ça va. Alors, Rambam, quand il parle justement de Sukkot, il dit à Sukkot, en plus de l'obligation de se réjouir qui existe pour tous les chagim, pour tous les fêtes de pèlerinage, donc pour tous les moadim, on va dire dans le texte, Afalpi, Shekola Moadot, Mitzvah bien que pour tous les Yamim Tovim, il y a une mitzvah de se réjouir lors de ces fêtes, Bechag HaSukkot, Hayta Sham Bamigdash, Simcha Yetera. Il y avait à Sukkot, dans le Migdash, une simcha supplémentaire. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Shenema, Usmartem lifne Hashem Elokechem, Shivat Yamim. Vous réjouirez devant Hashem votre Dieu, 7 jours. Donc, Rambam dit que à Sukkot, il y a un supplément de simcha, qui concerne les 7 jours d'ailleurs. Bon, Smartem, 7 jours. Alors, la grande question, c'est de quoi parle ici le Rambam? Alors, étant donné que juste après, dans la même halakha, le Rambam continue et il dit, Veketsadayosim. Comment est-ce qu'on faisait? Erev Yom Tov Arishon, la veille du premier jour de Sukkot, Ayu Metaknim Bamigdash Makom Lenashim, Milmalav Lanashim, Milmata, Kedesh La veille du premier jour, on ne peut pas faire ça. Yom Tov, on ne peut pas construire. Alors on construit la veille de Yom Tov, cette estrade pour les femmes sont en haut et les hommes en bas. Dit-il, pour qu'on ne se mélange pas. On matrilim lismoach et on commence à se réjouir, comme je vous l'ai dit, mimotsae yom tov arishon. D'accord? À la fin du premier jour de yom tov. Commence la fiesta. V'chen bechol yom vayom. מימי חול המועד, חול של מועד, מתחילים מאחר שיקריבו תמיד של בן 40, לשמוח שאר היום עם כל הלילה. De même, pendant tous les jours de חול המועד, quand on aura apporté le corban tamid de Ben Arbaim, c'est-à-dire le corban tamid qui est le dernier, a priori, le dernier corban qu'on amène dans la journée, comme vous savez, a priori, le Betamigdash est fermé le soir. La nuit, pardon. Alors, le dernier s'appelle Ben. Le Korban Tamid, il est moitié matin, moitié l'après-midi. Enfin, à l'ouverture des portes et à la fermeture des portes, normalement. Et quand on a fini d'apporter le Korban de Ben Arbaïm, on commençait à se réjouir au Bet Hamigdash. Ça restait ouvert toute la nuit. C'était la fiesta. Donc, a priori, le Rambam, il a dit, Ketsad Ayosim, après avoir parlé de la Simcha. Donc la plupart des gens disent, voilà, la simcha supplémentaire qu'il y avait, c'est, on en a dit deux mots, on va en parler, c'est sa fameuse simcha de Betashoeva, c'est-à-dire la fête qu'on faisait quand on allait puiser l'eau pour les libations d'eau. Il dit qu'il y avait une super fête, c'est de cette fête-là qu'il parle. Alors, il faut dire, si on fait très attention au texte, que c'est pas ce qui est écrit, parce que le Rambam, il a dit que enfin, il a cité un passouk. Il dit qu'on doit se réjouir 7 jours. Bon, s'il n'y a pas 7 jours, on se réjouit seulement à Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est pas 7 jours. Donc, c'est un peu difficile de dire que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce que je veux dire là maintenant, c'est un enseignement de Rabbi Yitzhak Koutner. Yitzhak Koutner, c'est le fameux patron d'Yitzhak. Yitzhak Koutner, c'était un rabbin américain. Enfin, il était né en Lituanie. Il est un élève de celui qu'on appelle l'Alter de Slobodka. Dans les élèves des élèves de Rabbi Israël Salanter, Ibrahim Moussa, il y avait plusieurs grands maîtres qu'on appelle le vieux de Slobodka, le vieux de Kelm, vieux n'étant pas du tout un titre péjoratif, c'est au contraire, Zaken, Alter, c'est un titre de gloire, quoi, quelque part. Et c'était tout des très très grands éducateurs. Et celui de Slobodka, c'est lui qui a qui a fait Aaron Kotler, qui a Aaron Kotler, celui qui a fait Yeshiva de l'Likoud, et qui était un des de Israël, je veux dire. Il a fait Rabbi Yitzhak Kouttner, il a fait beaucoup, beaucoup de monde. Et à son tour, Rabbi Yitzhak Kouttner, qui, lui, il est décédé en 80, 1980. Moi, je lui ai parlé une fois, mais j'ai niftar juste après. Pas ma faute, hein, mais il est niftar juste après. Et alors lui aussi, lui, il était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Chaim Berlin à New York. Il a fait des centaines de Talmidim, mais probablement des milliers de Talmidé Talmidav, des Talmidim de ces Talmidim, des milliers probablement, sûrement des milliers. Et il a beaucoup écrit, enseigné, écrit. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Pachad Yitzhak, à peu près sur toutes sortes de sujets. C'est un génie très précoce. Il était, je crois qu'il avait 17 ans. Il a écrit un sefer sur un Sechet Nazir, un sefer très important, encore aujourd'hui très important, sur Nazir, à 17 ans. Et puis, bon. Alors, c'était quelqu'un de tout à fait spécial, quoi. Qui a beaucoup influencé pendant longtemps, beaucoup de gens qui, tous les gens qui parlaient de étaient souvent influencés par lui. Le Rav Volbé, mon maître, à un moment donné, quand il est allé étudier, enfin, il allait toujours discuter avec Rabbi Yitzhak Kouttner. Et on voit la trace de l'enseignement de Rabbi Yitzhak Kouttner dans Aleshour. C'est le Rav Volbé qui m'avait envoyé pour parler avec Rabbi Yitzhak Kouttner. Et alors, Rabbi Yitzhak Kouttner, il dit évidemment qu'il s'agit pas de, que c'est pas vrai, c'est pas la Simcha Yetera, ça n'est pas Simcha de Beta Shoeva. Il y avait Simcha de Beta Shoeva. C'est un peu ambigu dans le texte. Comme vous voyez, on a lu ensemble Ketsad on a l'impression qu'il parle de ce dont il a parlé juste avant. Il a parlé juste avant des 7 jours. Alors le problème, c'est pour lui, c'est qu'est-ce que c'est exactement? Qu'il y avait de spécial? Qu'est-ce qu'on a fait de spécial à Sukkot pour qu'on parle d'une Simcha Yetera? Alors, il explique les choses de la manière suivante. L'homme, il est caractérisé par le fait qu'il est ce qu'on appelle un Baal Bechira. Il est un être qui peut choisir. Qui doit choisir. Il doit choisir le bien et pas le mal. Donc, la caractéristique de l'être humain, c'est la Bechira, la capacité de choisir. Et si on veut dire on veut parler de quelque chose qui n'est pas humain, qui dépasse l'humain, alors c'est quelque chose, on parlerait d'un temps, d'un lieu, etc., ou une situation où il n'y a pas de Bechira. D'accord? Situation dans laquelle on n'a pas de Bechira, c'est une situation inhumaine, puisque la caractéristique de l'humain, c'est d'avoir la Bechira. Alors il dit, on a l'habitude de dire que l'être humain, c'est un mini-cosmos, c'est un monde en petit. Il dit, je préférerais dire que le cosmos, C'est un homme agrandi. Donc, de la même manière que chez l'homme, il y a quelque chose qui n'est pas humain, il y a un niveau qui n'est pas humain, il y a un niveau où il n'y a pas de Bechira. Alors, puisqu'il y a tout ce qui existe chez l'homme existe aussi dans le monde, alors il y a aussi dans le monde quelque chose qui, d'une certaine manière, le monde, il est caractérisé par la possibilité d'y vivre, quoi. Le monde, ça veut dire, c'est l'espace, le lieu où les hommes peuvent vivre. Dans quelle situation est-ce qu'on ne peut pas vivre? Alors, nous, on ne peut pas vivre dans l'eau. On n'est pas capable de vivre dans l'eau. Donc, l'eau, d'une certaine manière, joue le rôle de ce qui n'est pas humain, parce que même ça joue le même rôle que la situation. Il n'y a pas de Bechira, là aussi, c'est pas viable, c'est pas humain, là aussi, il n'y a pas humain. C'est le problème de l'eau. Alors, c'est quand? Dans quelle situation est-ce que la Torah nous parle d'un homme qui n'aurait pas de Bechira? Pas de Bechira. Alors, la situation suivante. La Gemara dans Sanhedrin, je crois qu'on a vu avec vous, hein. Voilà, dans Sanhedrin, elle dit que le monde, il dure 6 000 ans et il est suivi d'un millénaire d'état de destruction. Le monde est détruit. Alors, est-ce que c'est durant ce 7e millénaire ou c'est avant, etc., que pas maintenant la variante dans ces questions-là? Il y a un millénaire après où le monde est détruit. Et avant cela, il y a la période messianique, d'accord, qui est suivie de Olam Haba. Et puis, il y a Triat HaMetim, la période de résurrection. Et là, il y a une discussion, est-ce que la résurrection, elle a lieu avant la période messianique ou après la période messianique? Mais la résurrection, elle a pour but de fabriquer une situation où l'homme va être. Bon, il faut que je précise. Y a des machloktot, mais je vous dis simplement les choses. La triatametim, c'est donc la résurrection des morts. Ça veut dire que il faut en passer d'abord par la mort. Dans la mort, il y a séparation de la neshama et du corps. Le corps, il se décompose complètement. Et la neshama, pendant ce temps-là, pendant tout le temps de cette décomposition, la neshama, elle va dans un olam haneshamot, dans un monde pour neshamot. Il y a un endroit qui s'appelle monde des neshamot, monde des âmes, où elle va attendre que le corps ait terminé de se décomposer et de pouvoir se recomposer, mais c'est, disons, se recomposer sans les composantes d'inertie, de pesanteur, qui faisaient que, dans la version initiale de l'homme, avec son corps et sa neshama, le corps empêchait la neshama de faire tout ce qu'elle aurait voulu faire. Il y a une inertie du corps qui, le corps, il n'est pas d'accord de faire certaines choses que la neshama lui suggère, mais il n'est pas d'accord et la neshama, elle ne peut pas l'y contraindre. Alors, ces éléments-là, si vous voulez, c'est comme s'il fallait laver les atomes. On va décomposer le corps en atomes ou en particules, et il faudra nettoyer tout ça. Et ensuite, on pourra les recomposer sans les saletés qui empêchaient la neshama d'influencer le corps. Donc, et la neshama, quand le corps sera recomposé, recomposable d'abord et recomposé, elle va réhabiter ce corps. Ça, c'est Triat HaMetim. Et maintenant, ce corps-là, avec sa neshama, ils sont dans un état de perfection, ils ne peuvent plus faire de fautes, ils n'ont plus de bechira, il n'y a plus de bechira puisqu'il n'y a plus de mal. Le mal, on l'a complètement éradiqué. Donc c'est un état de. C'est dans cet état-là que ce corps avec cette neshama vont aller dans Olam Haba et ils vont pouvoir jouir de jouissance purement spirituelle, où le corps lui-même sera capable de bénéficier de choses purement spirituelles. Il n'aura pas besoin de nourriture physique, mais il va jouir, profiter, comme la neshama. Alors, bien entendu, il y aura des niveaux. Le niveau de la neshama, c'est combien la neshama va pouvoir donner au corps. Et à quel niveau donc ça va placer le corps et l'aneshama? Ça va dépendre du travail que l'aneshama a réussi à faire quand elle était dans le corps première version. Donc, si la personne a fait plus de mitzvot, ben, dans Olam Haba, il sera à un niveau plus élevé. Parce que l'aneshama sera capable de faire plus pour l'attelage corps-aneshama que celle qui n'a pas réussi à faire autant de mitzvot et de Maasim Tovim et de Limoud, etc. Et donc, cette situation-là, où il n'y a pas de Bechira, ça, Rabbi Yitzhak Koutener, il appelle ça Olam HaYedia. C'est la différence qu'il y a entre la Bechira et la Yedia. Yedia, donc, c'est le savoir. D'accord? C'est un savoir absolu, c'est-à-dire, c'est la vraie vérité, quelque part. Pas la vérité relative dont on a parlé au chiour de. Je sais plus quel chiour j'ai parlé de ça. Voilà. Mais la vraie vérité, une vraie Yedia, une vraie connaissance. Et donc, le parallèle de la Yedia, quelque chose qui dépasse, comme on avait vu, qui dépasse la Bechira, c'est donc l'eau. C'est l'eau. L'eau, c'est un endroit qui est pas humainement habitable, en fait. Les gens ne peuvent pas vivre dans l'eau. Donc, le parallèle chez l'homme, c'est la Yedia, savoir, et le parallèle, c'est l'eau. Or, donc ça veut dire que l'eau a à voir avec quelque part la fin des temps. Une situation où on est dans la Yédia, c'est la fin des temps. Donc, on parle de l'eau, si, comme si, donc si l'eau, ça, c'est réminiscent ou ça a à voir avec la fin des temps. Et c'est au titre de ce que Soukhot a à voir avec la fin des temps. C'est quoi? C'est très proche de Olam Haba. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de l'eau. C'est pour ça qu'il y a des libations d'eau à Sukkot. Ça a à voir avec ça. Et alors, la caractéristique, justement, de ce temps-là qui a à voir avec l'eau, qui est la fin des temps, etc., ben c'est justement la simcha. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a la simcha complète parce que quelque part, on a réussi. On est apte à aller dans l'Olam Haba, on a réussi. Et donc, on est en joie parce qu'on a réussi à faire ce qu'on avait à faire. Alors, ce qu'on veut dire ici, c'est que l'accaparat, elle peut se faire de deux manières selon quel type de mal on a affaire. C'est ou bien avec le vidouille de Yom Kippour, si vous voulez, ou alors avec la simcha de Sukkot. C'est en cela que Sukkot est aussi dans le cycle de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. Parce que Sukkot avec la Simcha, grâce à la Simcha, on va faire un travail de kapara, en fait. Mais c'est un état de Simcha où je ne fais rien. Je suis dans cet état de Simcha. Parce que c'est toujours la même question. Si vous voulez, comment est-ce qu'on peut prescrire de se réjouir? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas vous prescrire. Enfin, la Torah ne peut pas nous prescrire de nous réjouir. Là, tu vas sauter sur place. C'est quoi la réjouissance qu'on peut me prescrire? D'où elle viendrait, cette simcha? Alors, si vous vous souvenez, dans le shiur de Bikurim, on a parlé sur Kitavo, on avait vu un rashi. Parce que là-bas, c'est marqué aussi, mais Samarta, tu te réjouiras. Et Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire, Samarta, tu te réjouiras? Il pense comme nous qu'on ne peut pas prescrire de te réjouir. Prescrire de te réjouir, tu vas faire comment? De même qu'on ne peut pas prescrire d'aimer, on ne peut pas prescrire non plus de se réjouir. Alors, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'elle veut la Torah quand elle dit, mais Samarta? Alors, Rashi explique. En automne, au moment de Sukkot, on a terminé tout le travail agricole et on a devant nous tout le fruit du travail. On peut rentrer les céréales, les fruits, presser le raisin pour faire du vin, presser l'olive pour faire de l'huile. On a tout ça. Et donc, quand tu as tout ça, tu es en joie. Tout le monde est joyeux. On est dans un état de joie parce que, voilà, j'ai les choses et ça a marché. En fait. Ce qui a marché, a marché. Bon, et donc, on se réjouit. Alors, la Torah, elle vient, elle dit, cette réjouissance que tu as là, qui est une réjouissance naturelle, tu dois l'élever. Tu vas la mettre au service de la chaîne. C'est-à-dire, tu vas faire dans cet état-là, tu vas faire les mitzvot. Dans cet état-là, tu vas étudier. On l'a vu toujours dans la paracha qu'on vient de lire, les klalot qui sont écrites dans Kitavo, cette chose négative qui font dresser les cheveux sur la tête, mais ce n'est pas dit du tout au sujet de gens qui ne pratiquent pas les mitzvot. C'est dit, peu importe, parce que tu n'as pas servi Hachem dans un état de joie, quand tu avais tout. Donc les klalot, elles viennent, pas parce que je n'ai pas fait les choses. C'est parce que on a fait les choses, mais on les a fait en traînant les pieds. On les a fait, bon, je suis obligé de les faire, alors je le fais. Et on fait toutes les mitzvot. Mais c'était lourd, c'était parenthèse. On a demandé un jour à M. Feinstein comment il se faisait que dans les années 1920, ça. Il y a énormément de Juifs qui sont arrivés d'Europe de l'Est, qui sont arrivés en Amérique. Et leurs enfants, ils ont tout laissé tomber. D'accord. Rachel a dit, parce que c'était difficile d'être juif à ce moment-là, et les Juifs, ils ont passé leur temps à dire, c'est difficile d'être un Juif. Bon, les enfants, ils ont entendu, c'est difficile d'entendre. Ben, je le fais pas. C'est tout. Donc, quand tu passes ton temps à dire que c'est difficile, difficile, ben, l'enfant, il dit, mais pourquoi tu dis difficile? Ben, fais-le pas. On n'est pas, on va pas, on cherche pas la difficulté. Donc, c'est très important de faire les choses, bisimcha. C'est une obligation. Mais on ne peut pas prescrire, comme on a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tu dois te réjouir? Ça veut dire que dans la vie, il y a des éléments qui nous réjouissent. Que ce soit, je sais pas, quand vous avez fini, je sais pas, vous avez fini un livre, vous avez fini je sais pas, un disque, vous avez fini un boulot, vous avez changé de maison, vous avez tout ce qui, vous avez un enfant, toutes sortes de circonstances dans lesquelles on est naturellement joyeux. Et la Torah te dit, à ce moment-là, cette simcha, prends-la et élève-la. Utilise-la pour des raisons spirituelles aussi. Donc, je te dis pas du tout de, à partir de zéro, réjouis-toi. Non. Quand tu es dans une situation où tu te réjouis, alors ne te réjouis pas que des questions purement matérielles, essaye de l'élever. Mais là, au service de, comme quelqu'un qui utilise un élan qu'il a d'une manière ou d'une autre, ah, puisque j'ai cet élan-là, alors je vais faire ça aussi. Que ce soit dans le business, dans, voilà. Et donc, à Soukhot, comme on est à la fin de l'année, on est au moment où on a, là, on a tout engrangé, alors on a cet état de joie. Alors, la Torah te dit, mais ça marche pas. C'est une simcha particulière, d'accord? Et où est-ce que je l'investis? Dans quoi? Je l'investis dans le fait que je sais, à la fin des temps, on aura cette simcha extraordinaire de pouvoir jouir de la présence, de l'éclat de la présence divine, quoi que ça veut dire, peu importe. D'accord? Que, voilà, c'est cet état-là. Et cet état-là, il est lié avec le problème de l'eau. De ce point de vue, l'eau est vitale. D'accord? Parce que sans eau, on ne peut pas vivre. L'eau est vitale et c'est pour ça que l'eau, elle représente aussi la Torah. En Maïm et la Torah. Donc, quand on utilise le mot Maïm, ça veut dire c'est la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est vitale, c'est elle qui nous donne la vie, quoi, quelque part. C'est elle qui, dans toutes les circonstances, elle nous aide à vivre. Voilà. C'est la Torah, c'est un mode de vie. Elle te dit comment vivre. Comment vivre de la meilleure façon pour toi. Donc, c'est ça qui doit nous mettre en joie, en fait. Et dans cet état-là, alors, quelque part, le Yetzirah, il ne peut pas me parler. Justement, parce que, voilà, je suis plein. Alors, c'est vrai que quand je dis qu'il ne peut pas me parler, il peut toujours me parler, parce que tu peux toujours te raconter ce qu'Ohri Vetsem m'a dit. C'est ma force, c'est moi qui suis le génial agriculteur, j'ai su quoi planter, où planter, quand planter, etc. Et j'ai su exactement combien de fumier il fallait mettre là, etc. Okay. Alors, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque qui est le risque de se prendre pour Dieu, en fait. Quand je pense que c'est moi qui fais les choses, je me prends pour Dieu. C'est ça le problème, la gava, l'orgueil, c'est se prendre pour Dieu. Je me dis, l'orgueilleux, il n'y a pas de place pour lui et moi dans le monde. Il faut choisir. Il me laisse pas de place. C'est pour ça que c'est le contraire de l'orgueil qui est la anava, l'humilité, c'est la meilleure de toutes les bonnes midot, les bonnes. C'est pour ça qu'on dit ça de Moshe Rabbeinu. Il était plus humble que tout le monde. C'est pas qu'il ne savait pas qui il était, il savait exactement tout ce qu'il était. Donc lui veut dire, Rabbi Trotner veut dire que c'est cette histoire de l'eau. Alors vous me direz, mais l'eau, on ne fait pas ça tous les jours. Non plus, pas non plus. Mais disons, ce n'est pas une fête, ça rejaillit sur toute la fête, parce que toute la fête de Sukkot, elle a à voir avec la fin de l'histoire. Et il y a à Sukkot quelque chose de tout à fait particulier, il y a beaucoup de choses qui sont particulières, mais il y a que à Sukkot, on apporte des korbanot pour les goyim. D'accord? Les Bnei Israël à Sukkot, on amène 70 korbanot durant la fête de Sukkot, 70 korbanot qui correspondent aux 70 peuples. Et on apporte des korbanot pour eux. Pourquoi? Parce que c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'on a fait ce qu'Hachem voulait qu'on fasse. Je vous rappelle qu'en réalité, ce qu'Hachem voulait qu'on fasse, ça incombait, tout initialement, ça incombait à Adam, tout ça, et quand Adam l'a pas fait, ça incombait à l'humanité tout entière. Et l'humanité, elle sait, comme dit le Ramchal dans Neder Hachem, l'humanité, elle s'est disqualifiée au moment de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est Nimrod, le chef de la tour de Babel. C'est celui qui a jeté Abraham dans la fournaise. C'est celui contre lequel Abraham s'est révolté, en fait. Ceux-là, ils se sont complètement disqualifiés. Et Hachem, les Midrashim disent qu'Hachem disait, bon, c'est fini, je vais détruire ce monde, je vais en refaire un autre. Et Abraham nous a dit, mais moi, je suis candidat, peut-être. Moi, je propose de faire le job. Hachem a testé Abraham et il a vu que, bon, on peut imaginer faire quelque chose avec lui. Et donc, il a fait les promesses qui font que, bon, voilà, nous, on est là par la suite de ça. Mais donc, on a fait les choses, mais quand on aura vraiment fait les choses, ça sera pour l'humanité qu'elles sont faites, ce n'est pas pour nous. Le Mashiach, il vient pas que pour les Israël. La réussite du monde, c'est la réussite du monde. C'est pas la réussite seulement d'Israël. Alors, Israël aura joué un rôle particulier et il continuera éventuellement de jouer un rôle particulier parce que si on dit qu'à ce moment-là, on sera Amlechet Kohanim Vegoy Kadosh, c'est-à-dire un royaume de Kohanim, mais les Kohanim, ça veut dire quoi? Kohanim, c'est bien ça veut dire des nobles, ou bien ça veut, et ou ça veut dire des gens qui sont au service d'Hachem. Donc les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Étudier. Ah, de quoi ils vont vivre? Mais si on est à la fin de l'histoire réellement, tout le monde aura compris que ce qu'ont fait les Bnei Israël, c'était ce qu'il fallait faire pour l'humanité. Donc tout le monde sera intéressé à ce que les Bnei Israël continuent d'étudier. De même que nous, le clan Israël, il était intéressé que les Kohanim servent Hachem, et pour ce faire, les Kohanim, on les a nourris. Le reste du clan Israël nourrit les Kohanim. Voilà, le reste de l'humanité va nourrir les Kohanim qui sont les Bnei Israël. C'est pas du tout que ça leur sera lourd. Au contraire, ils voudront en être. Ils voudront être de ceux qui, voilà, moi je veux participer à ma manière. Ma manière, c'est, je vais entretenir celui qui fait le travail. Comme nous, on entretenait les Kohanim qui faisaient la Avodah au Beth Amikdash. Si c'était vraiment bien compris, et si c'était, bon, si chacun était exactement à sa place, il n'y aurait aucune difficulté à ce que le clan Israël entretienne des gens qui s'occupent de l'Ornel la Torah. Aujourd'hui. Le clan d'Israël, il doit l'air. Il y a des gens qui sont prêts à le faire. Ils sont prêts à ne pas. Bon, alors évidemment, ceux-là, il faudra que ceux qui acceptent ça, qu'ils acceptent qu'ils n'auront pas obligatoirement une Lamborghini. Il y a des limitations dans la vie, quoi. C'est pas, on va tout avoir. Mais les autres, en fait, si on comprenait vraiment bien, gens devraient se battre pour pouvoir aider les gens à étudier. Il y a des gens qui comprennent comme ça. Un endroit comme l'Écoute, par exemple, les gens se battent pour donner. Ils se battent, il y a un nouveau, on a besoin d'un nouveau bignan. Les types, ils se battent. Des milliardaires, je ne sais pas, ils se battent. C'est moi qui veux le donner. Et il y en a qui ne sont pas contents parce qu'on ne leur a pas donné à eux, quoi. Comme le bâtiment, il porte le nom de celui qui l'a donné. Il y en a un qui a réussi à avoir deux bâtiments à son nom. C'est un scandale.
Pour intéresser à avoir des choses à Paris.
À Paris, on ne sait pas le vendre. Pas... Ah, y a des gens à Paris qui ont déjà compris. J'ai bien entendu. Il y a en 17e, je crois, il y a un collège où il y a 150 personnes, et entretenu par un seul bonhomme, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il me semble. L'information que j'ai vient d'une source prétendument sûre. Bon, il faut être très riche pour faire ça, mais. Personne n'est obligé de tout faire tout seul. C'est une éducation, cette histoire. Je me rappelle à Zurich, c'est Ramoshe et Bafonga qui ont éduqué les gens à donner. Et à tous les mariages, lui et son collègue, enfin, son ami, à tous les mariages, ils se levaient, ils passaient avec deux assiettes, l'une sur l'autre, les gens ont été invités à glisser des billets pour une cala, pour ceci ou pour cela. Les gens, ils étaient habitués à, et aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude de donner. En France, par exemple, les gens, avant, ils comprenaient rien du tout, aujourd'hui, il y a déjà quelques personnes qui ont compris, personnes qui donnent. Ils donnent vraiment très, très généreusement, quoi. Il y a beaucoup de gens qui donnent, mais, c'est sûr que si on comprend le rôle que les uns jouent et que voilà, moi je joue ce rôle-là. Par exemple, dans la halakha, on voit bien, par exemple, à Yom Tov, et souvent on appelle à la Torah les gens qui ne sont pas obligatoirement les plus grands talmidei chachamim, mais justement les gens qui donnent bien pour la communauté, etc. Il y a des gens qui disent c'est un scandale. Mais non, il faut bien aider les gens à faire des efforts. C'est normal. Hein. Je parle pas de communautés où il y a certains gens qui ne viennent que à Kippour. Je me rappelle quand j'étais enfant, à Genève, les gens, ils venaient, Iskor était juste avant Mincha. Non, juste après Mincha. On va pas autour de Mincha. Et donc, à Mincha, on appelait quasiment tous les richards de la communauté à la Torah. Donc, on n'en finissait pas. Donc, c'était très, ça devenait tard. Et après, le rabbin, il était après le Razan. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il fallait qu'il se dépêche. Il fallait qu'il descende la Amida de Mincha et la Neila à la vitesse grand V. Parce qu'on avait tellement tardé pour pouvoir appeler tous les Richards qui ne viennent que un jour par an à la Chouk et qui viennent que à Mincha parce qu'ils sont là à cause de l'Iskor. Bon, sinon, ils ne viennent pas. Ils auraient pu les appeler le matin, non? Ils ne sont pas là le matin, il n'y a pas Iskor. Il y a des gens auxquels il faut leur dire des fois que tu sais, cette chose-là, c'est aussi important que l'Iskor. Voilà, donc, lui, il veut dire que c'est cette idée-là de la simcha particulière qu'a à voir avec l'histoire de la fin des temps, l'histoire de l'eau, l'histoire de la yédia versus la bechira, etc. C'est ça, la simcha yétéra qu'il y avait à Ah, c'est ça que veut dire Rabbi Yitzhak Hübner. Donc, si vous voulez, la kapara se fait en deux temps. Un temps qui est vidouille, à Kippour, et un temps qui est la simcha de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes de mal. Il y a le mal intérieur, celui-là, il faut qu'on l'exprime dans le vidouille. Voilà. J'exprime les fautes que j'ai faites. Et puis, après, il y a le travail qui se fait un peu par. On n'en parle pas, mais il n'y a pas d'action dans la simcha, il n'y a pas, on ne prescrit pas des actions. Il doit être besimcha. On ne te dit pas quel geste il faut faire quand tu es besimcha. Il n'y a rien qui est dit. On dit de façon générale, pas pour cette simcha-là, mais en général, on dit une simcha, et c'est-à-dire, on dit la simcha, elle se traduisait. Peut-être c'est pour se mettre en simcha, c'est de manger de la viande, mais c'était la viande des korbanot. Il y avait un korban qui s'appelle korban simcha. C'est un korban où on amenait de la viande. Si on n'avait pas suffisamment de viande pour d'autres raisons, parce que on n'avait pas, ou bien qu'on n'avait pas fait, on n'avait pas apporté des shlamim, on n'avait pas eu de korbanot à apporter, pas assez. Ou bien qu'on avait beaucoup de monde, alors on devait apporter un korban spécial pour la simcha, manger de la viande de korban. Et le yaïn, alors c'est le yaïn qui a à voir avec les libations, en fait, c'est le yaïn de Kiddush. Ça, c'est une façon d'exprimer la simcha, mais. La viande ou même le vin, ça ne te met pas obligatoirement en état de simcha. Il y en a même qui ont le vin triste, mais bon. Voilà, on va s'arrêter là.
Ah.